c'est avec l'arrivée des rebelles que j'ai fui parce qu'ils ont sémé la terreur au sein de la population.
Ils ont commencé à tirer en l'air, ils ont dit Allahu Akbar. Après ça, ils ont dit que où est l'argent? Moi, j'ai dit que je n'ai pas d'argent.
On ne veut pas que la guerre recommence. Nous voulons que ce soit la fin et non le début.
Bonsoir à tous. Ravie de vous retrouver pour cette nouvelle édition hebdomadaire de Sahel+. Aujourd'hui, au sommaire, grogne de l'opposition au Tchad, le PAM manque de financement au Niger, les abolitionnistes poursuivis par la justice mauritanienne, des mendiants handicapés arrêtés mais relaxés au Sénégal, enfin le centre Carter se penche sur la sécurité au Sahel à Lomé. Voici tous les sujets que nous allons développer dans Sahel+. Restez avec nous. Au Tchad, à une semaine de l'investiture du président Idriss Déby Itno pour un cinquième mandat à la tête du pays, les six candidats contestataires cherchent des moyens efficaces pour contrecarrer sa légitimité. Les autres candidats malheureux qui ont reconnu leur défaite se mobilisent, eux, sur initiative du Premier ministre, pour soutenir son programme politique. De N'Djamena, André Komadjingar.
Réélu à sa propre succession en avril dernier avec 59,92%, Idriss Déby Itno sera investi le 8 août prochain. Le G6, groupe des partis politiques de l'opposition qui conteste ces résultats, est déterminé à donner du travail aux forces de l'ordre et à l'ANS, Agence nationale de sécurité. Ces contestataires viennent de mettre sur pied un mouvement dénommé FONAC, Front de l'opposition nouvelle pour l'alternance et le changement. Un mouvement qui a vu l'adhésion d'une trentaine des partis politiques de l'opposition, y compris quelques membres de la CPDC, coordination des partis politiques de l'opposition pour la défense de la Constitution. Ce nouveau regroupement emporterait-il la dissolution des précédentes coalitions, dont la CPDC? Réaction de Salibou Garba, rapporteur général de la CPDC.
La CPDC n'a pas été consultée. Nous avons un manifeste politique et nous avons un règlement intérieur. Le règlement intérieur précise que pour dissoudre la CPDC, il faut une plénière. Et c'est la plénière qui délibère et qui vote à la majorité de 2/3. Or, une telle plénière ne s'est pas réunie. Donc, qu'il y ait 1, 2, 3 ou 4 camarades qui aient adhéré à cette position n'emporte pas adhésion de la CPDC. La CPDC prend un gros morceau. Donc on ne peut pas dire que c'est rien du tout.
Le FONAC rappelle dans un communiqué de presse qu'il n'a pas besoin de requérir l'avis d'un regroupement des partis politiques existants futiles, la CPDC, pour faire ce saut décisif et qualificatif. Le FONAC est une émanation du G6, l'aile dure, qui entend former le gouvernement de salut public. Les 6 autres candidats malheureux qui ont reconnu la victoire de Déby aux premières heures de sa réélection forment également le G6 sur l'initiative du premier ministre chef du gouvernement, Paimi Padagé Albert. Dibidi Boukar Dibang, président du Parti démocrate et socialiste, fait partie de ce groupe. Il conseille aux radicaux de sursaut à leur projet.
Il faut assimiler leur déclaration à l'effet d'annonce. Ils vont mettre comment? Sinon, ils se mettraient en position de rébellion. Et je pense qu'ils sont tous conscients des affres de la guerre et ils ne nous conduiront pas jusqu'à là. Ils ont, n'est-ce pas, des amis parmi nous. Si le gouvernement le souhaite bien, nous sommes prêts, n'est-ce pas, à aller vers eux pour écouter, emboîter notre pas.
Pour Saleh Kebzabo, chef de file de l'opposition et coordonnateur du FONAC, ce regroupement est monté de toute pièce pour casser la dynamique de l'opposition dans sa lutte.
Être candidat à l'élection présidentielle n'est pas un jeu d'enfant. On est porteur d'un idéal tout à fait différent de celui que le pouvoir en place porte. Ce n'est pas une question de marchandage politique. Il faut que ces enfantillages-là cessent. Le contre-G6 est une idée de Déby. C'est tout à fait normal que ceux qui étaient avec nous, qui ont eu un score lamentable pour la plupart, puissent aujourd'hui chanter et danser pour lui.
André Kodumadjingar Ndiamena pour VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique au Tchad, 24 heures sur 24, à N'Djamena, en direct sur 93.1 FM et sur FM Liberté, aussi à N'Djamena. Le gouvernement du Niger plaide auprès des donateurs en faveur du programme alimentaire mondial pour venir en aide aux populations, mais surtout aux milliers de réfugiés que le pays accueille de chez ses voisins du Nigeria, du fait de Boko Haram et du Mali. La représentation du PAM à Niamey a besoin de plus de 20 millions de dollars d'ici la fin de l'année. Les précisions de notre correspondant à Niamey, Abdulrazak Idrissa.
Le Niger vit une situation humanitaire critique. Plus de 200 000 personnes déplacées et réfugiées fuyant les atrocités de la secte Boko Haram, venues s'ajouter à des centaines d'autres déjà éprouvées dans la région de Diffa. 50 000 autres réfugiés sont dénombrés dans la région de Tillabéri, frontalière avec le Mali. Pour tout cela et pour les autres populations, il faut une assistance. Les organismes du système des Nations Unies qui appuient l'État dans ce sens, comme le Programme alimentaire mondial, sont pratiquement à bout de souffle. Benoît Thierry, représentant du PAM au Niger.
Le PAM mène différents programmes au Niger et nous avons de plus en plus de difficultés à trouver des fonds. Et là, nous donnons des demi-rations et à partir du mois de septembre, nous n'avons plus de fonds pour continuer. Également les réfugiés maliens, la région de Diffa étant un peu mieux supportée parce que les urgences ont toujours plus d'impact au niveau des donateurs.
Cette rareté des fonds, le représentant du PAM en a parlé aux autorités nigériennes qui ont à leur tour réuni autour d'une table les donateurs pour leur demander des efforts supplémentaires en faveur du PAM. Bazoum Mohamed, Premier ministre par intérim.
C'est d'un montant de ressources additionnelles d'un peu plus de 20 millions que nous avons besoin au profit du PAM pour que celui-ci, en rapport avec nous, puisse continuer ses activités ô combien importantes et combien utiles comme la nutrition, les cantines scolaires, la création d'actifs productifs, de soutien à la prise en charge des réfugiés et des déplacés pour le restant de l'année.
À l'issue de la rencontre, des engagements ont été pris pour une réponse rapide, rassurant pour le représentant du PAM au Niger, Benoît Thierry.
Bien sûr, je suis optimiste. Je pense que ça a un impact. Quand le gouvernement montre son appréciation comme ça pour nos programmes, ce sont des messages importants pour nous. Et je suis sûr que ça va nous permettre de continuer à assister les populations les plus vulnérables au Niger.
Abdulrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
En Mauritanie, 13 membres de l'IRA, l'initiative pour la résurgence du mouvement abolitionniste, ont été arrêtés entre le 30 juin et le 9 juillet à Nouakchott et comparaissent aujourd'hui mercredi. Amnesty International exige la libération immédiate de ces militants. Anastasie Tudiech a joint la chargée de campagne d'Amnesty International pour l'Afrique de l'Ouest, Kiné Fatim.
Ils ont été arrêtés à la suite d'une manifestation qui a eu lieu dans un des quartiers périphériques de Nouakchott. Donc c'était un squat qui était occupé par des familles à majorité d'origine haratine, donc des descendants d'esclaves qui vivaient dans cet espace depuis plusieurs années. À la suite d'un déclaircissement de ces populations à la veille du sommet de la Ligue arabe, ces populations ont entrepris une manifestation pour résister un peu à leur déclaircissement. Le lendemain de ces échauffourées entre les forces de l'ordre et les habitants de ce squat, les militants de l'IRA ont été arrêtés.
Que leur est-il reproché exactement ?
Rébellion, d'usage de la violence, d'attaque contre le pouvoir public, d'attroupement armé et d'appartenance à une organisation non reconnue. Et ça, c'est pour les 13 militants de l'IRA. Et c'est vraiment une constante parce que ces dernières années, à chaque fois qu'un militant de l'IRA est arrêté dans le cadre de l'expression de sa liberté de manifestation ou d'association, ses membres sont accusés d'appartenance à une organisation non reconnue, tout simplement parce que l'IRA a demandé l'autorisation aux autorités mauritaniennes depuis 2008. Et depuis cette date, ils n'ont pas reçu l'autorisation.
Que risquent les 13 membres de l'IRA s'ils sont reconnus coupables demain ?
Ils risquent jusqu'à 2 ans de prison et une amende assez forte. Ce sont vraiment des leaders de l'organisation qui avaient des postes clés et qui sont arrêtés et qui ont été détenus pendant 12 jours dans un lieu secret, sans pour autant avoir accès à un avocat, ni même voir un membre de leur famille.
Comment réagit la population ?
Ils ont la solidarité des organisations de la société civile, des militants, et ils sont soutenus par ces personnes qui demandent, que ce soit dans les réseaux sociaux, que ce soit dans la presse, qui demandent leur libération immédiate et sans condition.
Quels recours ont-ils s'ils sont reconnus coupables ?
Alors, si malheureusement, hein, on espère vraiment qu'ils seront, que les autorités vont abandonner les charges contre ces personnes, mais si elles sont condamnées, voilà, le recours qu'ils ont, c'est de faire appel et en espérant que la loi soit favorable à la liberté d'expression et d'association en Mauritanie.
Kine Fatim, chargée de campagne d'Amnesty International pour l'Afrique de l'Ouest. Au Sénégal, le retrait des enfants de la rue a pris une nouvelle tournure depuis quelques jours. Ce sont des personnes vivant avec un handicap qui ont été arrêtées pour mendicité. Leur procès s'est tenu la semaine dernière et elles ont été relaxées. Mais pour la défense et les associations de personnes handicapées, c'est un nouveau combat à mener pour ces personnes vulnérables. À Dakar, la correspondance de Sokhna Nantaimbaï.
Ils étaient 7 à avoir été interpellés par la police. Un homme et 6 femmes, tous des handicapés moteurs. Le procureur avait requis 10 jours de prison avec sursis et finalement, aucune charge n'a été retenue contre eux. Après s'être félicité du verdict, l'avocat de la défense veut se focaliser sur l'article du code pénal qui a valu à ces personnes 5 jours derrière les barreaux avant d'être jugés. Maître Mbaye Jagnjai.
Je voudrais dire que cet article 245-là est une disposition pénale qui est obsolète, anachronique. Désuète. C'est une loi qui a été mise en place par le colon pour empêcher les démunis d'accéder au centre-ville où ils vivaient. J'ignorais que cette loi existait encore dans le code pénal parce que, à ma connaissance, depuis 15 ans d'exercice, c'est la première fois que je vois des personnes traîner devant la barre pour le délit de mendicité dans un pays dans lequel l'État lui-même n'a mis en place aucun système permettant à ces personnes-là de ne pas du tout sombrer dans cette déchéance.
Mieux, Yatma Fall veut que cette loi soit abrogée. Il est le président de la Fédération des associations de personnes handicapées.
Notre combat va continuer d'abord pour l'abrogation de cette loi. Et le combat aussi va continuer pour que ces rafles, ces violences faites sur les personnes handicapées qu'on emprisonne à tort cessent.
Selon des informations, le président Macky Sall n'aurait pas apprécié l'arrestation puis le jugement de ces handicapés mendiants. Officiellement, la lutte contre la mendicité ne concerne que les enfants mendiants. Sornana Tambay Dakar, VOA Afrique.
Les questions de sécurité maritime et de paix en Afrique ont rassemblé la semaine dernière à Lomé des experts en la matière sous l'égide du Centre Carter. Une rencontre dénommée Consultation Afrique-Chine-USA pour la paix. Notre correspondante à Lomé, Kay Lawson, a pu s'y rendre.
Pour la première fois, la consultation Afrique-Chine-États-Unis pour la paix s'est tenue en dehors du territoire américain. En effet, dans le cadre du sommet de l'Union africaine sur la sécurité maritime, le Togo a organisé les 27 et 28 juillet la dite consultation. Deux sujets essentiels ont été abordés lors de cette réunion tenue à huis clos. Il s'agit de la sécurité maritime et l'économie bleue dans le golfe de Guinée et de la promotion de la paix dans le Sahel. Kofi Kpae, directeur des affaires politiques au ministère togolais des Affaires étrangères.
Nos mers et nos océans regorgent d'énormes ressources qui doivent en principe contribuer au développement, créer la richesse, mais les pays africains ne tirent pas le maximum de profit de ces océans et de ces mers. Donc comme le Togo accueille ce sommet, les consultations constituent un prélude important pour les acteurs togolais de faire valoir leur point de vue, de proposer des pistes de réflexion sur les problèmes qui minent la sécurité maritime. Et la deuxième thématique, notamment la promotion de la paix au Sahel, intéresse à plus d'un titre. Aujourd'hui, le Sahel est confronté à des problèmes d'ordre sécuritaire et ces violences qui sévissent aujourd'hui au Sahel ne sont pas loin des côtes africaines.
Dirigée par le Centre Carter, la consultation vise à promouvoir une réflexion collective sur les problèmes communs et surtout à identifier des domaines concrets de collaboration. Jordan Ryan, vice-président des programmes de paix au Centre Carter.
Maritime security, especially in the Gulf of Guinea.
La paix dans le Sahel et la sécurité maritime et l'économie bleue sont des sujets sur lesquels la Chine, l'Afrique et les États-Unis peuvent bien collaborer. Les intentions du Centre Carter sont de promouvoir la paix et de construire de l'espoir. Et donc, dans le domaine de la sécurité et paix en Afrique, nous pensons qu'il y a beaucoup de potentiel. Nous croyons que l'expertise est déjà présente avec les acteurs locaux. Donc dans la plupart des programmes sur lesquels nous travaillons, les acteurs locaux, c'est eux qui mènent les projets. La sécurité est un problème, que ce soit sur le continent africain, ça a des conséquences partout dans le monde.
And to the fact that that gets reflected in Africa, that's a concern for the entire world.
Présent à Lomé dans le cadre de cette consultation tripartite, le chef bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel a salué la synergie avec laquelle les pays du Golfe de Guinée font front contre l'insécurité maritime. Mohamed Ibn Chambas.
Nous, aux Nations Unies, nous soutenons cette approche de conjuguer les efforts des pays du Golfe de Guinée pour faire face aux défis sécuritaires maritimes. Les Nations Unies vont continuer de travailler avec les pays de l'Afrique pour faire face aux défis sécuritaires maritimes. Donc, cette réunion peut apporter des perspectives, des bonnes idées pour les sommets qui vont se tenir ici à Lomé.
La consultation Afrique-Chine-États-Unis pour la paix a été initiée en 2014 à l'issue des entretiens entre l'ancien président américain Jimmy Carter et le président chinois Xi Jinping. Kay Lawson, Lomé, VOA Afrique.
Sahel Plus, c'est fini pour aujourd'hui. À la production Lionel Gaïma, au micro Claire Morin-Dubourg. Rendez-vous mercredi prochain, 18h10, temps universel sur VOA Afrique. Nous nous quittons en musique avec le Nigérian King Sunny Ade et son morceau Ayewa. King Sunny Ade se produira à Brooklyn le 18 août prochain. Bonne soirée et bonne nuit à tous.
You mock a guy.